Jean de Victoire, Victoria, Victorienne, Victorieux. Ici Fred Pellerin de Saint-Élie-de-Caxton. Vous êtes présentement à l'écoute de CILS-FM, la voix de votre communauté.
Jeudi 7 juillet, il est 16h précise. Ciel gris sur Victoria, la pluie semble avoir cessé pour de bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Débrief. Merci de syntoniser CILS FM 107,9 où que vous soyez au travail, à la maison ou sur la route. En interview aujourd'hui, on parle d'argent. Nous recevons le professeur Julien Picot qui enseigne la science économique sur le campus de l'Université de la Colombie-Britannique dans l'Okanagan. Julien Picot nous parlera des monnaies virtuelles, principalement du Bitcoin. Ce sera vers 16h40. Pour le moment, on va écouter les bulletins de nouvelles de notre collaborateur Denis Lépine. On se retrouve dans quelques minutes. Restez à l'écoute. La production du Débrief est rendue possible grâce à la contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info et du com national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La ministre du Commerce international, Chrystia Freeland, est en Chine aujourd'hui, où elle prend part à la réunion des ministres du Commerce du G20. Les discussions ont lieu à Shanghai jusqu'à samedi. Il s'agit d'une rencontre préparatoire au sommet des dirigeants du G20 qui aura lieu en septembre. Rappelons que le Canada et la Chine co-président le groupe de travail pour le commerce et l'investissement mis sur pied en janvier dernier. La ministre tiendra des discussions bilatérales avec ses homologues et rencontrera des chefs d'entreprise. Le gouvernement du Canada vient d'engager la compagnie Lockheed Martin pour procurer un soutien au système de conduite de tir de sous-marins installé sur les 4 sous-marins de la classe Victoria et des formateurs d'équipes basés à terre. La valeur est de 14,5 millions de dollars. Le contrat inclura notamment les enquêtes techniques telles que demandées par le ministère de la Défense nationale. De plus, Lockheed Martin ajoutera le soutien pour les mises à jour de traitement des signaux sonars avancés, l'affichage des images de recherche et de périscopes d'attaque et le contrôle à distance. La Commission canadienne de sûreté nucléaire renouvelle le permis d'exploitation de l'établissement de recherche et d'essais nucléaires des laboratoires nucléaires canadiens sur le site des laboratoires de Chalk River, l'un des sites les plus connus au pays. La Commission a dit avoir pris sa décision suite à l'audience publique qui a eu lieu à Ottawa en avril. Le personnel de la Commission présentera des mises à jour sur le rendement des laboratoires dans le domaine de la sûreté et de la réglementation. Jason Kenney se lance à la conquête de l'Alberta. Le député conservateur fédéral et ancien ministre sous le gouvernement Harper a dit vouloir diriger le Parti progressiste conservateur de l'Alberta et réunir les partis de droite de la province avant les prochaines élections. Jason Kenney a fait l'annonce de sa candidature lors d'un événement tenu à Calgary. Actuellement dirigé par le NPD de Rachel Notley, l'Alberta est sans chef conservateur depuis le scrutin de mai 2015. Lancement d'un ensemble de ressources pour aider les Canadiennes et Canadiens à participer au dialogue pan-canadien sur la réforme électorale. Un guide détaillé sur le dialogue et des ressources éducatives et logistiques sont maintenant disponibles sur le site canada.ca/démocratie. Le gouvernement a indiqué aussi que le site permettra aux gens d'être à jour concernant les prochaines activités de mobilisation qui auront lieu dans leur communauté. Le gouvernement Trudeau estime que le but des ressources est d'aider les gens à organiser leur propre dialogue sur la réforme. C'est le 20 juillet prochain que les premiers ministres des provinces et des territoires se rencontreront au Yukon. Le premier ministre du Yukon, Darryl Paslowski, sera l'hôte de la rencontre entre les 13 premiers ministres et les dirigeants des 5 organismes autochtones nationaux. La rencontre se tiendra dans le territoire traditionnel des Premières Nations de Champagne et d'Ashiik. Il y aura entre autres visites guidées et présentations culturelles. Étude du bureau de Graham Fraser sur le bilinguisme dans les institutions fédérales. Eh bien, selon l'étude, il arrive que des employés négligent d'offrir un accueil bilingue dans les bureaux où il n'y a pas suffisamment d'employés bilingues. Le document a permis d'établir que les institutions fédérales doivent élargir leur approche. Le commissaire aux langues officielles a dit que les gestionnaires ont un rôle de leader à jouer en rendant l'offre des services prioritaires et en expliquant pourquoi c'est aussi important. Aux États-Unis, la décision du FBI de ne pas déposer d'accusation contre Hillary Clinton dans le dossier des courriels a continué de faire jaser et Donald Trump n'a pas hésité à dire que cela prouve que le système américain ne fonctionne pas. Mentionnons également que le sénateur du Tennessee, Bob Corker, a décidé de se retirer de la liste des candidats potentiels à la vice-présidence chez les Républicains. Au sport baseball majeur, victoire de Toronto 4-2 contre Kansas City. Les Jays ont ainsi balayé les champions de la dernière série mondiale. Les hommes de John Gibbons affronteront ce soir les Tigers de Détroit. Au tennis à Wimbledon, Roger Federer a remporté son match de quart de finale contre Marin Cilic. Federer a eu besoin de 5 manches pour s'assurer une place en demi-finale. Le Suisse affrontera Milos Raonic vendredi. Pendant ce temps, Andy Murray a également trimé dur pour venir à bout de Sam Querrey. Le Britannique sera opposé à Thomas Berdych lors de la deuxième demi-finale. Et rappelons, présentation aujourd'hui des matchs de demi-finale chez les dames. Au soccer, à l'Euro 2016, demi-finale, bien victoire du Portugal 2-0 contre le Pays de Galles. Et l'autre demi-finale sera disputée cet après-midi entre l'Allemagne et la France. Et au football canadien, en terminant ce soir, eh bien Winnipeg sera à Hamilton et Toronto en Colombie-Britannique.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'info quotidien. On peut dire on peut ajouter au bulletin de Denis que la France a eu le dessus sur l'Allemagne par un gain de 2-0 à l'Euro il y a quelques heures, peut-être un peu moins de 2 heures. C'était en cours d'après-midi ici à Victoria. Alors, la communauté française qui a poussé un hurrah de soulagement aujourd'hui. On suivra l'Euro, on suivra les Bleus un peu plus tard dans cet Euro. On va passer aux nouvelles provinciales à présent. Exploitation minière, une première nation intente un procès contre le Yukon. La première nation Trondek Ashwin engage des poursuites contre le gouvernement yukonais pour l'obliger à la consulter au sujet de l'exploitation minière sur son territoire traditionnel. La Première Nation de Dawson City soutient dans des documents déposés la semaine dernière devant la Cour suprême du Yukon que l'exploitation minière a un impact négatif sur les droits des autochtones. La Première Nation souligne que Whitehorse, la capitale du Yukon, a l'obligation de notifier, consulter et s'adapter aux besoins de la Première Nation avant de tenir des activités minières sur des terres non revendiquées de la région. C'est la première fois qu'une Première Nation yukonaise qui détient une revendication territoriale lance ce genre de poursuite contre le gouvernement. Des procédures judiciaires semblables ont été intentées au cours des dernières années par des Premières Nations qui n'avaient pas conclu d'entente de revendication territoriale. Un fonctionnaire du ministère territorial de la Justice du Yukon examine actuellement la demande. Il a affirmé qu'il déposera une défense. Ça, c'est une nouvelle qui a été publiée sur le portail de Radio-Canada. On va parler à présent d'immobilier. C'est un sujet qui est revenu fréquemment dans nos éditions du débrief récemment. La crise immobilière, on peut l'appeler ainsi, continue de sévir dans la région du Grand Vancouver, mais aussi à Victoria. On a des prix qui atteignent de nouveaux sommets. Et je vous signale un nouveau rapport qui a été rédigé par la mutuelle Vancity. Un rapport qui révèle que la location de logements dans la région du Lower Mainland, la région de Vancouver, donc, est maintenant hors de portée pour les jeunes de la génération Y. On s'en doutait, bien sûr, cette étude vient le confirmer. Non seulement cette génération Y n'a pas les moyens d'acheter de l'immobilier, mais elle ne peut pas non plus se permettre les prix des loyers à leur niveau actuel. Selon le rapport de Vancity, le coût des loyers dans la grande région de Vancouver a augmenté près de 2 fois plus que les salaires au cours de la période 2011-2015. Donc les salaires n'arrivent pas à tenir la cadence, ils ont été dépassés nettement. En fonction du double par le coût des loyers. Ainsi, les salaires hebdomadaires ont progressé de 6,6% au cours de cette période, alors que le prix moyen des loyers, quant à lui, a monté de 11,4%. C'est un petit peu moins du double, mais presque. Pas une grande surprise, comme je le disais. Donc, les gens qui cherchent à se loger savent très bien à quel point il est difficile de trouver du logement abordable à Vancouver, mais aussi à Victoria. On reste dans le dossier de l'immobilier. Je vous mentionne que la compagnie Airbnb, qui est un acteur un petit peu dans cet écosystème de l'immobilier, un nouvel acteur survenu qui a fait irruption sur le marché, si vous voulez, il y a quelques années, et qui est de plus en plus important en taille. Donc, la compagnie Airbnb a relancé le débat sur l'accès à la propriété et l'accès au logement en Colombie-Britannique avec un rapport de son CRU qu'elle a communiqué cette semaine, un rapport qui s'inscrit dans un exercice de consultation publique de la ville de Vancouver, un rapport dans lequel Airbnb a nié que son service de location de logement temporaire puisse avoir des effets négatifs sur le prix et la disponibilité des loyers dans la région de Vancouver. Donc, sans surprise, la ville de Vancouver compte actuellement plus de 4200 hôtes Airbnb, donc 4200 logements ayant un espace Airbnb. L'activité du portail a triplé dans la région de Vancouver depuis 2013. Les statistiques montrent que les utilisateurs louent un espace lorsqu'ils sont absents et ne laissent pas de logement vide intentionnellement pour en tirer un profit via Airbnb. C'est du moins ce que affirme Airbnb dans ce rapport rendu public cette semaine. C'est le fil rouge de la portion provinciale et régionale de cette émission. On parle encore de l'immobilier, toujours à propos de cette crise. Le gouvernement provincial a rendu public un premier tableau de recensement des transactions immobilières en Colombie-Britannique. Le ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Mike DeJong, a affirmé qu'un peu plus de 3% des ventes immobilières entre le 10 et le 29 juin, donc tout récemment, ont impliqué des acheteurs étrangers. Et la plupart de ces acheteurs, dans la portion de 3%, étaient chinois. Donc, 47% des transactions recensées concernaient la ville de Vancouver, tandis qu'un nombre de 260 transactions se situait dans la région vancouveroise. Donc, un total de un peu plus de 300 transactions qui sont le fait d'investisseurs ou d'acheteurs étrangers. Alors, 3%, ça semble faible par rapport à ce qu'on a l'impression, par rapport aux impressions. Voyons voir si c'est exact. J'imagine qu'il y aura des commentaires de la part des différents acteurs du milieu de l'immobilier. Alors, ces données ont été communiquées par le ministère des Finances. Elles indiquent que le total de ces transactions a totalisé 390 millions de dollars, ce qui représente environ 5% du marché immobilier résidentiel pour la période indiquée, donc en juin. Cette veille de l'activité étrangère sur le marché immobilier dans la province a été amorcé par le gouvernement Christy Clark en février dernier. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. On a eu une journée grise qui s'est amorcée dans la pluie ce matin. La pluie semble avoir cessé. On a 17 degrés actuellement au mercure. Ça va rester nuageux dans les prochaines heures. Il y a une probabilité d'averse qui reste pour les prochaines heures. Environnement Canada, toutefois, n'indique pas le pourcentage de probabilité. Pour demain, ça reste nuageux. On a 60% de probabilité d'averse durant la journée avec un maximum de 18 degrés. Et pour samedi, on aura une journée ennuagée, encore une fois, avec une probabilité d'averse de 60% et un maximum de 20 degrés. Et si on se projette encore un petit peu plus loin dans l'avenir, dimanche 10 juillet, ce sera nuageux. Pas de probabilité d'averse dans le tableau d'Environnement Canada sur le site météo.gc.ca avec un maximum de 21 degrés. Voilà, on va faire une petite pause. Au retour, ce sera la nouvelle du jour. Pour l'instant, on écoute l'artiste Gauvreau, une pièce qui s'intitule « Le patient ». «
moins cœur, moins corps. Est-ce du matin ou du soir? J'ai perdu mes repères. Je perds le nord, prisonnier de mon vieux corps. On m'a parqué dans le corridor. Allez, je souffre, allez, venez.
Vous écoutez CLS FM 107,9. On vient d'entendre l'auteur, compositeur, interprète Gauvreau avec la pièce Le Patient. C'est le moment de passer à la nouvelle du jour. On a une actualité qui nous provient de Grande-Bretagne. On parle encore de la Grande-Bretagne. C'est un petit peu normal. Le pays traverse une période de turbulence actuellement après le référendum du 23 juin. Il y a un vide au sommet de l'État. David Cameron a annoncé sa démission et tous les espoirs sont permis pour certains membres de son parti, les Tories, qui souhaitent justement atteindre le poste de premier ministre. Et cette fois-ci, tout indique que c'est une femme qui dirigera la Grande-Bretagne. On a donc un article de l'agence France-Presse qui nous donne le topo. Une femme succédera à David Cameron et deviendra la deuxième à diriger le gouvernement britannique après Margaret Thatcher. Les députés conservateurs ayant retenu aujourd'hui, jeudi, deux candidates, la ministre de l'Intérieur, Theresa May, et la secrétaire d'État à l'énergie, Andrea Leadsom, pour briguer le poste de premier ministre. Aucun des ténors masculins Tories de la campagne en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc l'exit, le leave, ne prendra la suite de David Cameron, indique cet article de l'AFP. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, que vous avez peut-être vu ces derniers temps dans les journaux, il a une coiffure assez distinctive qui n'est pas sans rappeler celle de Donald Trump aux États-Unis. Donc Boris Johnson s'est désisté. Il en a fait l'annonce il y a quelques jours. Et quant à Michael Gove, qui est un autre ténor qui était pressenti pour la succession de Cameron, il est ministre de la Justice. Il n'a pour sa part obtenu que 46 voix au deuxième et dernier tour de scrutin, donc intra-parti, qui visait à déterminer donc qui seraient les finalistes pour le poste le plus élevé, le poste de premier ministre. 199 des 329 députés conservateurs ont voté aujourd'hui pour Theresa May, qui est arrivée en tête devant Andrea Leadsom. Celle-ci a obtenu 84 voix. Donc, une grosse avance pour Theresa May, qui a obtenu 199 voix dans ce scrutin. Theresa May, indique l'article de l'AFP, c'est une eurosceptique notoire, même si elle avait rejoint le camp du maintien dans l'Union européenne. Elle fait figure de candidate de consensus pour rassembler les Tories divisés après l'âpre campagne référendaire. Avec Michael Gove, Andrea Leadsom a, quant à elle, été une des figures de proue du camp du Brexit, le camp du Leave, pendant la campagne du référendum ce printemps. Les deux finalistes féminines, donc, seront départagées au cours de l'été par un vote par correspondance des 150 000 adhérents du Parti conservateur, les Tories. L'élue définitive, donc la vainqueur, sera officiellement désignée le 9 septembre et aura la lourde tâche de mener les négociations de sortie de l'Union européenne tout en tenant la barre d'un pays pris dans les turbulences économiques du Brexit. La course à la succession de M. Cameron, qui avait annoncé sa démission au lendemain du référendum du 23 juin sur le Brexit, avait viré à l'aigre au cours des derniers jours. Cet article de l'AFP rappelle un petit peu quelques-uns des faits saillants des débats, des vifs débats qui ont secoué la formation conservatrice. Nick Bowles, directeur de campagne de Michael Gove, a ainsi dû présenter publiquement ses excuses après avoir incité les partisans de Theresa May à voter pour son candidat afin d'écarter Andrea Leadsom, qui est arrivé en deuxième position. Dans un message envoyé aux députés et que la presse britannique s'est empressée de publier, Nick Bowles, oui, s'est déclaré franchement effrayé par la perspective de voir accéder Andrea Leadsom à la tête du gouvernement britannique. Quant à Andrea Leadsom, elle a dû revoir son CV, son curriculum vitae, que ses opposants l'avaient accusé d'avoir enjolivé. Et donc, il y a d'autres péripéties et faits saillants des débats et des luttes de pouvoir qui déchirent le Parti conservateur. Donc, résumons en disant qu'il y a deux candidates donc à la succession de David Cameron désormais, et on connaîtra la vainqueur début septembre, en date du 9 septembre précisément. Je vous mentionne une autre nouvelle du jour avant de retourner en musique. Ça concerne les monnaies virtuelles. Ce sera d'ailleurs le sujet de l'interview d'aujourd'hui avec le professeur Julien Picot. Les monnaies virtuelles, restez à l'écoute, ce sera vers 16h40 et des poussières. Je tiens à vous mentionner donc que la Banque du Canada a déclaré récemment qu'elle étudiait la monnaie virtuelle du Bitcoin, qui est la monnaie virtuelle principale, la plus connue du moins. Donc la Banque du Canada étudie le Bitcoin, précisant qu'elle mène des tests en vue d'une éventuelle intégration du Bitcoin dans certains fonctionnements bancaires. Il s'agit d'une première dans le monde pour une banque centrale. L'institution canadienne, par la voix de la première sous-gouverneure, a confirmé que l'expérience touchait notamment les paiements interbanques. La Banque centrale du Canada a souligné par ailleurs qu'elle n'avait aucune intention d'émettre des dollars canadiens numériques ou de conduire des tests se rapportant à la devise canadienne. Voilà qui complète la portion nouvelle du jour. On va faire une petite pause musicale de quelques minutes avec François and the Atlas Mountains, une pièce qui s'intitule La vie dure. On se retrouve avec l'agenda culturel dans quelques minutes.
est dans les dunes. Et je retourne à l'âge. Et durant le temps du chant des somnambules, le visage en argent.
Excellente pièce de François and the Atlas Mountains dans l'émission Le Débrief, 16h27. Vous êtes en compagnie d'Alexis Gagnon. Je suis avec vous jusqu'à 17h. On va ouvrir l'agenda culturel. La première suggestion que je vais vous faire, c'est celle des Beaux Jeudis. Connaissez-vous les Beaux Jeudis? C'est un 5 à 7 mensuel qui réunit les francophones et francophiles de la région de Victoria. C'est tous les premiers jeudis du mois. Nous y sommes en ce 7 juillet. C'est au Yates Street Tap House, donc au 759 Yates Street, en plein cœur de Victoria. Ça débute dans un peu plus de 30 minutes, vers 5 heures, comme le nom l'indique, un 5 à 7. Et vous y êtes invités bientôt, bien sûr, dans un esprit festif de réseautage, question de renouer avec les gens que vous connaissez dans la communauté et de faire des nouvelles rencontres. Donc, au 759 Yates Street, ça commence tout à l'heure, le 5 à 7 mensuel de la communauté francophone organisé par la Société francophone de Victoria. C'est un rendez-vous. Autrement, ce soir à Cine Santa sur le campus de l'Université de Victoria, le film Disorder pour un deuxième soir présenté à 19h et 21h. C'est un film que j'ai vu hier soir à la projection de 21h et que j'ai beaucoup aimé. C'est un thriller très efficace. Il y a quelques moments d'épouvante très bien réalisés. C'est l'histoire d'un ex-soldat qui souffre de troubles post-traumatiques et il est engagé comme agent de sécurité par une famille très riche et il va découvrir que cette famille a des problèmes assez importants. C'est une famille dysfonctionnelle qui est la cible d'attaques et donc le thriller progresse et devient assez prenant au fil du récit. Donc c'est ce soir à 19h et 21h, ça s'intitule Disorder. C'est un long métrage de 99 minutes réalisé par Alice Winocourt. C'est un film qui avait été projeté à Cannes en 2015 dans la section Un certain regard. Voilà pour les petites options culturelles ce soir. Les Beaux Jeudis, on espère vous y voir bien sûr tout à l'heure. Et on retourne en musique dans quelques instants. Je vous propose d'écouter le Montréalais Peter. C'est un Montréalais d'adoption, un Européen qui a adopté Montréal il y a quelques années. Il nous présente la pièce Noir Ébène. On écoute ça tout de suite.
Assis devant rien, je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. AM seul avec moi dans un diner ouvert 24 heures où les gens prennent pour emporter.
de plus à chaque seconde. C'est un film noir et j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde. De mon téléphone, soudain quelqu'un rentre. J'ai cru c'était toi, c'était personne. Une meute de loups entre et dévore tout. Je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux. Ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti. Serais-je jamais rentré? J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. C'est un film noir, oui je pense. J'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir et j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde le code de la fin. J'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir.
h 33, vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On écoutait à l'instant le Montréalais Peter avec la pièce Noir Eden. C'est le moment de passer à la revue de presse du jour. On va commencer avec une nouvelle qui nous arrive du Moyen-Orient. C'est plutôt une analyse des médias au Moyen-Orient. C'est paru sur le site Bastamag, qui est un média indépendant français. Ils ont profité de ce que Orient 21, qui est un autre média indépendant, organisait une grande table ronde sur le Moyen-Orient récemment pour rencontrer des journalistes, des éditeurs, des rédacteurs en chef de médias installés au Moyen-Orient, un petit peu partout. Et ça a donné un texte d'analyse qui donne beaucoup la parole justement à ces journalistes qui sont tous les jours au front pour la liberté de presse. Ça s'intitule « Dans le monde arabe aussi, les médias libres s'organisent malgré la censure, les menaces et la propagande. En Égypte, en Tunisie, en Algérie ou même en Syrie, des médias indépendants ont éclos depuis les printemps arabes. Tous partagent des aspirations communes, informer face aux intox et à la propagande, consolider leur indépendance malgré des moyens réduits, faire de l'investigation et traiter des sujets de fond, y compris ceux qui fâchent les conservatismes culturels. Confrontés à des régimes répressifs, à la menace terroriste ou à la guerre civile, ils se battent pour les sociétés démocratiques du futur. Bastamag a croisé plusieurs de ces journalistes courageux à l'occasion d'une rencontre organisée par le site Orient 21. Je note qu'Orient 21 s'écrit Orient XXI comme en chiffre romain, le chiffre 21. Donc orient21.info si vous voulez consulter ce portail très sérieux où les articles d'analyse sont de très bonne tenue. On poursuit dans ce compte-rendu de la rencontre. Le site d'information, il est question du site d'information Mada Masser, Lina Atala est directrice de Mada Masser, un média indépendant égyptien lancé à la veille du coup d'État militaire de 2013 contre le président islamo-conservateur Mohamed Morsi, démocratiquement élu un an plus tôt. Basé au Caire, les membres de Mada Masser ont tous en commun d'avoir été renvoyés du journal Egypt Independent. En cause, leur trop grande indépendance d'esprit et leur liberté de parole. Alors, il y a tout un passage sur Mada Masser et ça concerne évidemment l'Égypte. Je vous lis aussi un petit passage qui concerne un média tunisien. Journaliste Sana Sibouay, pardon pour la prononciation, a cofondé le site d'information tunisien Inkifada, lancé en juin 2014. Ici, on prend le temps nécessaire pour produire une information de qualité, préviennent les journalistes rencontrés par Basta, développeur et graphiste. Une manière de dépasser les réseaux sociaux qui, s'ils ont été un outil essentiel pendant la révolution des printemps arabes, seraient devenus depuis une jungle où l'information est prétexte aux commentaires trop brefs, à l'intox et à la propagande. On se concentre sur l'investigation, les reportages, le data journalisme et c'est en ce sens qu'on parle de slow journalism, littéralement de journalisme lent, détaille l'une des cofondatrices. Le sérieux de leur travail a payé. L'International Consortium of Investigative Journalists, l'ICIJ, a choisi Inkifada pour révéler début avril les noms tunisiens qui figuraient dans les Panama Papers. Vous vous souvenez des Panama Papers, évidemment, une fuite géante qui concernait l'évasion fiscale de plusieurs pays occidentaux. Donc, dans sa tournée des médias du Moyen-Orient, lors de cette rencontre d'Orient 21, Bastamag a aussi rencontré des journalistes de la Jordanie. La Jordanie a également connu quelques manifestations au début du printemps arabe. C'était une demande de liberté, de démocratie face à la concentration des pouvoirs du roi, qui est plutôt vue dans la communauté internationale comme progressif et libéral. Mais c'est très difficile de pousser le public à se mêler des questions de transformation politique démocratique. On nous dit qu'on devrait être heureux de ce que nous avons en Jordanie. Elle égrène pourtant les noms des journalistes et des blogueurs qui comparaissent actuellement devant les tribunaux jordaniens et des noms auxquels personne ne prête attention, dit-elle. La liberté d'expression politique civile ne fait pas partie des priorités en Jordanie, dit l'une des rédactrices en chef de ce média jordanien qui s'appelle Set Iber. La question de l'indépendance des médias se pose aussi au Liban, remarque Bastamag dans cet article. Nala Shahal, professeure de sociologie politique et directrice de publication de l'hebdomadaire Arabi Asafir, vulgarise des textes d'analyse sur le Liban, sur ses villes, son économie, l'architecture, le goût, la politique, etc. Au Liban, dit-elle, la répression n'a pas été aussi directe qu'ailleurs. L'État est faible et nous pouvons écrire ce que nous voulons. Ils ont essayé d'intervenir sur des thématiques sensibles, morales en particulier, mais ils ont dû reculer devant la levée de boucliers. Voilà, c'est un article très long en fait qui recense tous ces médias du Moyen-Orient qui étaient présents lors d'une grande rencontre organisée par le site Orient 21. Vous pouvez trouver donc ce compte-rendu sur le site de Bastamag, un média indépendant français. Je vais passer à présent à un papier publié dans le journal Libération que l'on trouve à l'adresse libération.fr. C'est sur c'est un entretien avec l'économiste James Galbraith, qui est le fils d'un économiste très célèbre, John Galbraith. Alors, ce James Galbraith, le fils, a publié récemment un ouvrage sur la crise grecque de 2015. Vous vous souvenez, les Grecs ont élu démocratiquement un gouvernement social-démocrate, franchement à gauche, dirigé par Alexis Tsipras. Malheureusement, les réformes voulues par ce gouvernement n'ont pas pu être menées à terme en raison de la pression exercée par l'Union européenne, dont la Grèce est membre. Et donc, ce volume publié par James Galbraith est un récit aux premières loges de ce qui s'est passé en Grèce en 2015. Le titre anglais, je vous le donne d'entrée de jeu, « Welcome to the Poisoned Chalice, the Destruction of Greece and the Future of Europe ». Donc, le quotidien Libération s'est entretenu avec James Galbraith. C'est très édifiant, c'est très instructif, et le livre, parions-le, et l'est encore plus. Donc, cet entretien paru dans Libération.fr donne envie de lire le livre de la part donc d'un acteur du cas grec. Il était vraiment au plus près de la situation lors des négociations entre le gouvernement de Tsipras et l'Union européenne. Il était le conseiller de Yanis Varoufakis, qui était alors le ministre des Finances de la Grèce. Alors, ce texte, oui, dans Libération.fr, je vous le recommande. Et moi, je vais me renseigner du côté de la bibliothèque centrale de Victoria. Je vais peut-être essayer de mettre la main sur cet ouvrage paru tout récemment, et si je réussis à l'obtenir, soit par commande ou par prêt interbibliothèque, je vous le mentionnerai, et peut-être aurez-vous envie de l'emprunter également. Voilà, on va passer dans quelques minutes à l'interview, dans quelques instants en fait. Nous entretenons aujourd'hui avec le professeur Julien Picot, qui enseigne la science économique sur le campus de l'Université de la Colombie-Britannique dans l'Okanagan, UBC Okanagan. Julien Picot nous parlera des monnaies virtuelles, principalement du Bitcoin. On en a glissé quelques mots un petit peu plus tôt dans l'émission. On va vraiment s'attaquer au sujet dans quelques instants. Restez à l'écoute. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est le moment de passer à l'interview du jour. Je suis en compagnie de Julien Picot, professeur à UBC Okanagan. C'est un économiste. Nous l'avons déjà reçu dans des émissions précédentes. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on parle de monnaie virtuelle. Que sont les monnaies virtuelles?
Les monnaies virtuelles, simplement un moyen de paiement, donc un peu comme nos dollars canadiens, mais finalement qui ne sont pas distribués par des gouvernements, qui a été mis en place par une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto, si on parle du Bitcoin, qui est la monnaie la plus connue.
Oui, et, Bitcoin, oui.
Oui, et donc finalement, c'est assez comparable à ça, c'est pour faire des achats majoritairement sur Internet, parce que très peu de vendeurs l'accepte pour l'instant, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a une monnaie additionnelle non basée sur un gouvernement finalement qui est à disposition des gens.
Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que on peut véritablement faire des transactions pour des objets courants, des vêtements, des produits de consommation courante?
Très peu, même si maintenant il y a quelques magasins qui commencent spécialement sur Internet, qui commencent à les accepter. C'est plus du transfert de personne à personne en fait pour l'instant qui se fait à travers le Bitcoin.
D'accord.
Ou les monnaies virtuelles. Maintenant sur l'aspect sécuritaire, c'est pas clair. Il y a quelque chose par exemple qui est que quand on s'inscrit sur la plateforme Bitcoin, on donne ou on reçoit un mot de passe finalement, et si on perd ce mot de passe, par exemple, votre monnaie est perdue à jamais, oui. À moins que vous le retrouviez. Donc il y a des risques à ce niveau-là. Ensuite, c'est un programme informatique, et donc il y a toujours des possibilités de que quelqu'un arrive à trouver un moyen de voler des currencies. Il n'y a pas de protection complète par rapport à ça, j'ai envie de dire.
En possédez-vous ou connaissez-vous des gens qui possèdent une monnaie virtuelle et probablement le Bitcoin en l'occurrence?
Oui, j'en connais beaucoup, spécialement chez les étudiants, il y en a quelques-uns qui en ont. Moi, personnellement, non. J'ai pas assez confiance dans le Bitcoin pour en avoir moi-même.
D'accord. Et que font-ils ces étudiants? Sont donc ces précurseurs, ces early adopters, que font-ils avec le Bitcoin?
C'est compliqué à dire. Je pense qu'ils s'en servent pour acheter des choses sur Internet. Parfois, peut-être même pas tout à fait légal, mais c'est vraiment une monnaie de complément pour faire des transactions de personne à personne ou sur des marchés parfois illégaux aussi. C'est pas toujours très très clair ce qui se passe avec ces monnaies virtuelles.
Alors, faut-il réglementer la monnaie virtuelle à ce moment-là?
C'est un grand débat qui est en ce moment de réglementer la monnaie virtuelle. Je pense qu'en Europe, là, ils en parlent, c'est vraiment d'actualité là-bas.
Oui.
Même en France, il y a eu un rapport là dernièrement qui a été fait par un député sur finalement l'Internet, ce qu'ils appellent le Black Internet.
Oui.
Les problèmes qu'il y a par rapport à ça, et le Bitcoin ou les monnaies virtuelles étaient un des éléments du rapport qui a été déposé. La Commission européenne aussi, en ce moment, est en train de vouloir réguler ça. Je pense qu'une des choses qui est vraiment importante, ça va être de l'aspect anonymat finalement du détenteur de Bitcoin qui pose problème, parce que finalement tout ce qu'on a besoin pour avoir un compte Bitcoin, c'est d'avoir un pseudonyme, et on donne pas nécessairement sa vraie identité. Quand vous allez ouvrir votre compte en banque, à la banque, peu importe votre banque, vous avez besoin de donner des papiers d'identité, vous avez besoin de prouver qui vous êtes. Il y a une traçabilité qui se fait par rapport à ça. Mmh. Alors qu'avec le Bitcoin, finalement, cette traçabilité n'existe pas vraiment, puisque ça se fait tout par Internet avec des pseudonymes.
Donc ça soulève un débat. Effectivement, des acteurs hostiles peuvent s'emparer du Bitcoin pour mener des opérations criminelles, voire terroristes. En même temps, si je mets mes lunettes de libertarien, ce que je ne suis pas forcément, mais on peut supposer que l'anonymat procuré par le Bitcoin est un générateur de liberté et peut être employé à des fins qui augmentent la liberté des individus quelque part.
Oui, non, c'est vrai qu'il y a ce débat-là et cet aspect de liberté qui existe. C'est clair que tout le monde ne veut pas toujours nécessairement vouloir qu'on sache comment ils ont dépensé leur argent et tout ça. Maintenant, c'est toujours le problème. Il y a un aspect liberté qui est très important, puis il y a un aspect de comment les gens utilisent leur liberté. C'est un petit peu ce qu'on voit sur Twitter avec l'intimidation, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, l'idée que on voit que beaucoup d'intimidation se fait, notamment à travers des comptes à pseudonyme. Donc c'est le même parallèle qu'on peut faire ici. Il y a un outil qui est là et qui peut-être marche très bien, mais il y a l'utilisation dont les personnes en font. Et après, ce qu'il faut voir, c'est combien finalement est-ce que la plupart des gens qui utilisent le Bitcoin ne le font avec de bonne foi ou pas, et la même chose pour les réseaux sociaux finalement.
D'accord. Et pour commencer dans ce domaine, par exemple, je suis un petit épargnant, j'ai un travail, j'ai une vie routinière d'employé, je veux me procurer des Bitcoins, comment je fais? Est-ce qu'il y a un guichet unique?
Alors, si vous habitez à Vancouver, il y a même des guichets ATM en fait qui sont Bitcoin. Ouais. Il y en a pas partout, mais Vancouver a été une des premières, si ce n'est la première ville à avoir des guichets ATM. Sinon, sur Internet, je pense même qu'il y a un site bitcoin.com qui doit exister ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs vendeurs de Bitcoin. Simplement, il suffit d'ouvrir, parce qu'il faut que vous ayez un compte finalement. Il y a une application qui existe pour ça, donc ou des applications, et donc vous ouvrez une application et après c'est quand même assez facile d'accès pour la partie transaction et à partir du moment où vous voulez acheter des bitcoins.
J'ai lu quelque part que Sakamoto, le créateur putatif des bitcoins, qu'on n'a pas encore identifié avec certitude, mais ça c'est une autre histoire, donc que Sakamoto avait créé un nombre fini de Bitcoin et non un nombre infini, c'est-à-dire qu'il y avait déjà originellement un nombre déterminé de Bitcoin avec une limite. Est-ce que c'est à peu près exact ce que j'ai compris?
Oui, c'est à peu près pas exact. Alors, le chiffre, je crois que c'est 21 millions de bitcoins au total qui vont être émis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont pas tous disponibles aujourd'hui. Ils sont mis sur le marché petit à petit à petit. Et je pense que l'idée étant que l'ensemble des bitcoins seront disponibles après même 2100. Il me semble que c'est 2140 la date. Donc il y a encore du temps pour que tous les bitcoins soient mis en marché. Mais oui, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir une monnaie avec un nombre fini d'unités à la fin. C'est exactement
est-ce
ça.
Est-ce que lorsque cette extrémité sera atteinte, il y aura lieu de créer une nouvelle monnaie à ce moment-là? Est-ce que les bitcoins vont devenir obsolètes?
Ils vont pas nécessairement devenir obsolètes. Encore une fois, je pense que le but est de jouer sur l'offre et la demande aussi. Mm-hmm. Si on considère que le Bitcoin peut aller jusque-là, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça va disparaître avant, mais l'idée étant que quand il y aura un nombre fini et que si ça devient une monnaie réellement d'échange et d'achat, bah, simplement la valeur va continuer à augmenter, de la valeur du Bitcoin. Parce que c'est toujours un marché d'offre et de demande, donc là l'offre sera fixe. Et la demande, si elle continue d'augmenter, bah, le prix, la valeur finalement du Bitcoin, de cette monnaie, devrait augmenter. Je pense que c'est un petit peu ça le pari de cette personne, même si en 2140, je suppose qu'il ne sera plus nécessairement là pour voir ce qui se passe avec ça.
D'accord. Donc d'ici là, quel est l'avenir des monnaies virtuelles selon vous? Elles ont droit de cité? Elles auront droit de cité?
Bah, je pense qu'une des choses, ça va être leur capacité, premièrement, à ne plus être nécessairement la monnaie du terrorisme et des trafics. Mm-hmm. Je pense que le fait que les gouvernements maintenant commencent à donner des régulations va les aider beaucoup avec ça. Le second point, à mon avis, ça va être aussi la stabilité de la monnaie, parce que c'est une monnaie qui fluctue énormément. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est la moitié de la valeur que ça avait à un certain moment, mais c'est aussi des milliers de fois plus que ça l'était au début. Je pense que si ça a commencé à 20 sous de dollars américains, c'est aujourd'hui aux alentours de $600, et puis ça a été jusqu'à $1200 à un moment. Wow. Donc il y a des très très grandes fluctuations de valeur là-dedans, et il n'y a pas de, c'est pas vraiment une espèce de courbe qui va en montant et qui ça fluctue un peu autour. Faut être très très bon pour prédire ce qui se passe avec le Bitcoin, et ça dépend un peu de comment les gens l'utilisent, pourquoi les gens l'utilisent. Et il y a aussi l'idée que, je sais pas si vous avez entendu parler du halving, donc c'est cette idée que finalement les gens, parce que faut bien comprendre qu'il n'y a pas de banque centrale pour le Bitcoin, donc la régulation ou l'administration de la monnaie se fait finalement par des entreprises ou par des particuliers qui, ce qu'on dit, c'est que finalement, il y a des blocs de transactions qui doivent être passés, et donc il y a ces compagnies ou ces individus aident à la monnaie Bitcoin à passer ces blocs de transactions, et en fait, ces gens-là sont rémunérés un certain nombre de bitcoins pour faire ça. L'aspect, c'est que finalement, chaque 4 ans, la rémunération de ces gens-là est divisée par 2.
Ah.
Et donc, à cause de ça, il se pourrait très bien qu'il y ait de moins en moins de gens qui veuillent le faire si la valeur du bitcoin n'augmente pas. Par exemple, là, dans les prochains jours, finalement, on arrive à la fin d'un 4 ans, et donc on va passer la valeur donc de cette rémunération va être divisée par 2. Et donc c'est pour ça que si vous tapez le mot-clé Bitcoin sur Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles en ce moment qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin après, finalement, ce halving. Il y a des gens qui pensent que ça va augmenter énormément parce que justement, pour que la rémunération de ces gens-là puisse continuer à se faire à peu près au même niveau, il y a d'autres personnes qui pensent que finalement, si cette valeur-là n'augmente pas, il va y avoir une réduction de l'intérêt à passer ces transactions-là, et donc il se pourrait que la valeur de la monnaie baisse. Il y a même une personne sur le Huffington Post qui disait que ça pourrait même aller jusqu'au zéro, une valeur de zéro.
Donc cette division par deux arrive à tous les 4 ans, disons.
À tous les 4 ans, c'est ça.
Et c'était voulu par Sakamoto, ça aussi.
Oui, c'est complètement planifié.
Wow.
Et c'est qu'au moment de 2140, finalement, la date de fin d'émission des bitcoins, eh ben, plus personne ne sera rémunéré pour finalement faire l'administration des transactions, j'ai envie de dire. Et donc,
c'est pas comme quand on divise des actions pour les rendre plus nombreuses. C'est simplement la valeur du bitcoin qui diminue.
Non, c'est pas la valeur du bitcoin, c'est le nombre de bitcoins que les gens vont recevoir. S'ils arrivent à faire ces blocs de transactions.
D'accord, ok. On a vu le Bitcoin fluctuer avec le Brexit. Est-ce que c'était rationnel ce qui s'est passé, selon vous?
Moi, je pense qu'avec le Brexit, tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés, et pas seulement sur le marché de Bitcoin, n'est pas nécessairement rationnel. Parce que finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. Et on sait que les marchés ont tendance à surfluctuer au moment où, où une grande annonce de ce type-là se fait. Ouais. Donc, j'ai envie de dire que commenter ce qui se passe réellement dans les 2-3 semaines après une annonce comme ça, c'est pas nécessairement, faut pas essayer de nécessairement voir quelque chose, c'est de la volatilité, ouais. Des gens qui essaient de comprendre et de, parce qu'il faut bien comprendre que quand il y a un prix de marché comme ça, on essaie de comprendre quelle est la valeur future. Donc là, ouais. là le fait que le Brexit se fasse ou a été voté, je devrais dire, ça apporte énormément de, les gens ne savent pas ce qui va se passer finalement avec ça. Est-ce que ça va être profitable pour l'Europe? Est-ce que ça va être profitable pour le Royaume-Uni ou pas? L'un ou l'autre, l'un et l'autre, aucun des deux. Tout le monde a des théories à propos ouais. de ça, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien, ou en tout cas, on ne sait pas ce qui va se réaliser. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec, finalement, commenter les changements de marché qui se font juste après l'annonce.
Peut-on dire en 2016 que le Bitcoin est une valeur refuge? Est-ce que c'est approchant de dire ça?
Ça peut l'être. Moi, je ne le considère pas encore comme une valeur refuge. Du fait des fluctuations et du fait des propres problèmes du Bitcoin, comme le halving dont on a parlé oui. juste avant. Mais est-ce que ça peut devenir une valeur refuge? C'est possible. Il y a des gens qui pensent que l'immobilier à Vancouver peut devenir une valeur refuge. L'or est une valeur refuge. Mm-hmm. Certaines matières premières peuvent devenir des valeurs refuges. Certaines monnaies de certains pays deviennent des valeurs refuges. Donc, c'est très compliqué. Mais je pense que il n'y a pas une grande confiance des marchés financiers sur le Bitcoin. Et donc, je pense pas que voir un exode massif de gens finalement qui aillent chercher du Bitcoin parce qu'ils ont peur des autres choses. Je pense qu'il y a d'autres produits comme l'or par exemple qui vont rester oui. des valeurs de refuge qui vont être plus traditionnelles et naturelles pour les investisseurs sur les marchés.
Julien Picot, merci pour cet éclairage sur les monnaies virtuelles. C'est très informatif. On va peut-être pas utiliser le Bitcoin aujourd'hui, mais qui sait, certains d'entre nous, dans un horizon de quelques années, commenceront peut-être à en faire usage. Merci d'être passé à l'émission aujourd'hui.
Merci à vous. À la prochaine.
À la prochaine. C'était Julien Picot, professeur à l'Université de Colombie-Britannique sur le campus de l'Okanagan. C'est déjà la fin du débrief. Allô, la planète suivra dans quelques minutes. Soyez du rendez-vous lundi. On est de retour lundi pour de nouvelles éditions du débrief. C'est toujours du lundi au jeudi. On regarde la météo rapidement. On a 18 degrés, ciel nuageux et à l'extérieur de nos studios, toujours pas de pluie. Même si le site d'Environnement Canada nous prédit quelques averses dans les prochaines heures. Demain, ce sera également nuageux avec une probabilité d'averse de 60% pour un maximum de 18 degrés. Excellente soirée à tous.